Il est 7h.
J'ai l'impression de vivre un rêve, d'halluciner quoi. Ouais, ça fait bizarre, hein. On passe de la solitude au total à cette fête, à ces lumières. Ouais, c'est un rêve d'enfant.
Rêve réalisé pour Yannick Bestaven, une victoire dans le Vendée Globe au bout d'un suspense absolument incroyable. Nous rejoindrons Corinne Boulou au Sable d'Olonne dans un instant. L'actualité, c'est aussi cette menace de reconfinement qui plane au-dessus de nos têtes. Pas d'annonce avant la fin du week-end. Nous irons à l'hôpital de Melun où on s'attend à un afflux de malades. Et en pleine crise sanitaire et économique, l'UFC Que Choisir pointe les pratiques pour le moins discutables des sociétés de recouvrement.
En fait, ils faisaient tout pour récupérer leur argent. Donc, des lettres d'intimidation. Donc, moi, je me suis dit, je vais perdre mon appart, je vais tout perdre. Mes enfants, ils vont être à la rue. C'était du harcèlement. Hein.
Dans ce journal, les dénégations d'Edouard Balladur, accusé de financement illégal de sa campagne de 95, et un chef-d'œuvre de la Renaissance aux enchères à New York. Cette toile de Botticelli pourrait devenir le tableau le plus cher du monde.
Juste après ce journal, d'autres bateaux. La vente des chantiers de l'Atlantique qui tombe à l'eau, l'éclairage écho de Nicolas Barré, le regard international de Vincent Hervouet. Entre le handball et le Vendée Globe, Virginie Fulpin a vécu sa plus belle soirée de couvre-feu. Ça, c'est l'édito sport avant de retrouver Stéphane Bern pour notre rendez-vous d'histoire. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous écoutez Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le tour du monde à la voile en solitaire en 80 jours et seulement deux petites heures et demie d'écart entre le premier et le deuxième skipper du Vendée Globe. Le vainqueur, c'est donc Yannick Bestaven qui vient de descendre de son bateau.
Ça a été impressionnant ce Vendée Globe, ça n'a pas arrêté de faire le yo-yo. C'était pas bon d'être au premier en fait. Quand moi j'étais premier, je me suis fait reprendre. Là, ben, Charlie, j'ai repris les heures suffisantes pour passer devant, avec le temps de compensation. Mais ouais, on n'a pas chômé. Ouais. C'était une régate à l'échelle planétaire. Il fallait attaquer au bon moment. Mais c'est vrai que ça a été souvent très serré. C'est encore serré quand on voit le nombre de bateaux qui arrivent dans le golfe de Gascogne. Là, en quelques journées, là, c'est énorme. C'est énorme. C'est jamais vu, c'est historique.
Bonjour Corinne Boulou.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous êtes en direct des Sables d'Olonne ce matin sur le quai au-dessus du ponton d'honneur où s'est amarré il y a quelques minutes le voilier de Yannick Bestaven.
Oui, je l'ai sous les yeux, ce voilier, ce monocoque de 18 mètres, mètre coque. Et figurez-vous qu'on a le podium, hein, puisque derrière lui est amarré Apivia, le bateau de Charlie Dalin. Et en troisième, on voit d'ici Bureau Vallée, le monocoque de Louis Burton. C'est vrai que Yannick Bestaven, il le disait, hein, via un rêve éveillé, il ne se départit pas de son sourire. Il a le trophée à la main, il est en train de répondre aux questions de la presse, hein, et des nombreux journalistes qui sont ici. C'est vrai que c'est une histoire incroyable. Après ce sauvetage de Kevin Escoffier, il était pas très bien à ce moment-là parce que c'est vrai que ça a été très compliqué, cette opération de sauvetage. Il est reparti, il n'a rien lâché et derrière, eh bien, il prend les rênes de la course dans le Pacifique. Il va rester 26 jours à la tête du Vendée Globe et avec Charlie Dalin, eh bien, ils auront animé ce Vendée Globe. Yannick Bestaven passe le Cap Horn en tête. Et là, ensuite, au large du Brésil, eh bien, il se fait rattraper par la flotte et il se dit, il vient de le dire, mais je vais faire comme Jean-Luc Hamm, c'est-à-dire le seul à avoir passé le Cap Horn en tête et à ne pas remporter la course. Eh bien, si, c'est lui, là, en ce moment, qui savoure le trophée en main, cette victoire dans la 9e édition du Vendée Globe.
Oui, sous vos yeux, hein, Corinne Boulou, on entend aussi le vent derrière vous. Yannick Bestaven, en réalité, il est arrivé en 3e position et c'est grâce au temps de compensation qu'il remporte la course.
Alors voilà, c'est ça. Yannick Bestaven parle de temps de compensation et pas de bonification. Parce qu'effectivement, le 30 novembre, il participe avec Jean-Luc Hamm, Sébastien Simon et Boris Herman aux opérations de sauvetage de Kevin Escoffier. Et pour cette opération de sauvetage, il a dû se dérouter, c'est-à-dire changer sa route, modifier sa trajectoire pour essayer de quadriller l'endroit pour retrouver le radeau de survie où se trouvait Kevin Escoffier. Et pour cela, eh bien, le jury de course lui a accordé 10h15 de bonification. Alors, il ne naviguait pas avec ça en tête forcément, sauf sur ces dernières 24 heures, parce que Charlie Dalin savait qu'il fallait créer l'écart par rapport à Yannick Bestaven pour rester le premier, mais Yannick Bestaven savait qu'avec ses 10h15, il pouvait l'emporter. Et c'est ce qui s'est produit puisque, effectivement, vous le disiez et vous le dites, après retranchement de ce temps de compensation, eh bien, 2h30 séparent Yannick Bestaven de Charlie Dalin. Et c'est bien Yannick Bestaven, le vainqueur.
Merci beaucoup Corinne Boulou en direct des Sables d'Olonne. Et preuve que tout peut arriver jusqu'au bout, l'Allemand Boris Herrmann a perdu ses chances de l'emporter. Après avoir heurté un bateau de pêche hier soir à 160 km de l'arrivée, il est attendu aux Sables d'Olonne dans l'après-midi.
7h05 sur Europe 1, un confinement très serré. Voilà l'expression que l'on retiendra de la journée d'hier. C'est le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal qui a évoqué cette hypothèse à l'issue du Conseil de défense sanitaire.
Et Emmanuel Macron se laisse encore un peu de temps avant d'annoncer ses décisions. Il attend de nouvelles études scientifiques, notamment sur la circulation du variant anglais. Et c'est bien cet élément qui pourrait faire exploser le nombre de contaminations et donc de malades à l'hôpital. Une éventualité à laquelle on se prépare avec une certaine résignation au centre hospitalier de Melun. C'est là que s'est rendue Angèle Châtelier.
Ce bip, le personnel soignant l'a constamment dans les oreilles. Chaque sonnerie, c'est un patient en détresse. À l'hôpital de Melun, les malades du Covid représentent 30 à 40% des lits de réanimation. Et les professionnels de santé savent que ça ne va pas aller en s'arrangeant. Mais ça fait un an que ça dure, nous dit le docteur Moshi. Il est chef du service et il se sent prêt.
C'est forcément un sentiment désagréable d'être à nouveau en situation d'attente d'une vague importante. On s'adaptera comme on s'est adapté lors des épisodes précédents. Je ne vois pas d'autres alternatives.
Son regard s'attarde sur une chambre vide, histoire de se rassurer. Oui, il reste encore de la place, mais juste à côté, un patient intubé lui fait signe.
On va venir voir.
Plusieurs infirmières se relaient 24 heures sur 24. Parmi elles, Agathe, dont on devine un sourire derrière son masque. Elle est parée pour cette troisième vague, qu'elle espère cependant la plus tardive possible pour souffler un peu.
Nous, ce qui nous inquiète un peu, c'est de savoir si nos congés, nos semaines de récupération vont encore sauter comme l'année dernière. Ça veut dire une grosse charge de travail à nouveau, mais bon, maintenant on a l'expérience.
Alors pour l'instant, le personnel soignant profite comme il peut du calme avant la tempête.
Un reportage à l'hôpital de Melun en Seine-et-Marne, Angèle Châtelier. Selon les derniers chiffres, on compte un peu plus de 3100 malades en réanimation, 351 décès supplémentaires en 24 heures.
Et avant un éventuel reconfinement, Jean Castex entame cet après-midi une série de réunions en visioconférence, notamment avec les chefs des groupes parlementaires à l'Assemblée.
Et l'ambiance risque d'être un peu tendue parce qu'hier, le groupe En Marche a décidé de mettre fin à la mission d'information Covid qui menait des auditions. Grosse colère de l'opposition qui dénonce un déni de démocratie. Écoutez le président du groupe LR à l'Assemblée, Damien Abad.
Mettre fin à la mission d'information sur la Covid à l'Assemblée nationale, ceci en pleine crise sanitaire, c'est totalement irresponsable et irrespectueux des droits du Parlement. Avec l'ensemble des groupes parlementaires d'opposition, nous sommes opposés à cette pratique, à ce naufrage démocratique de la majorité qui ne veut pas tout simplement assumer devant les Français et devant la représentation nationale ses choix en matière de vaccination et tout simplement sur la politique sanitaire. C'est un déni de démocratie totalement inadmissible, irresponsable et nous souhaitons en tout cas que le Parlement soit respecté, soit entendu et que nous puissions exercer tout simplement notre mission de contrôle devant les Français.
Le président du groupe LR à l'Assemblée au micro d'Aurélie Herbemont.
Il est 7h08 sur Europe 1 et dans un instant, les pratiques redoutables des sociétés de recouvrement et un Botticelli aux enchères. Mais d'abord, deux lieux et deux situations pour illustrer le rejet des contraintes qu'expriment certains Français.
Oui, ça fait d'ailleurs partie des paramètres évalués en ce moment avant une éventuelle décision de reconfinement. C'était hier, à l'heure du déjeuner à Nice, un restaurateur a carrément ouvert son établissement qui était plein à craquer avec le soutien de clients très remontés. En tout cas, la liberté n'a pas duré bien longtemps pour ce restaurateur, placé hier soir en garde à vue parce que son cuisinier était en situation irrégulière.
Et même au sein des forces de l'ordre. Écoutez bien, pourtant mobilisés pour verbaliser les contrevenants au couvre-feu, même au sein des forces de l'ordre, il y a quelques réfractaires.
Une enquête administrative a été ouverte après l'organisation d'un pot de départ au commissariat d'Aubervilliers en région parisienne. Ça chante, ça danse la Macarena, sans masque ni geste barrière. La préfecture promet des sanctions administratives contre les participants.
Ceux qui ne sont pas à la fête, ce sont tous ces Français touchés de plein fouet par la crise actuelle et qui n'arrivent plus à payer leurs crédits. Le nombre d'impayés pourrait exploser dans les mois qui viennent.
Et l'UFC Que Choisir dénonce ce qu'elle appelle les pratiques scandaleuses des sociétés de recouvrement, pratiques proches du harcèlement. L'association de consommateurs craint que les banques ne se débarrassent des crédits impayés en les confiant à ces sociétés. Les plaintes ont d'ailleurs augmenté de 15% sur un an, Carole Ferry.
Exactement. Et si l'UFC Que Choisir s'inquiète, c'est que même la Commission européenne tente de trouver des solutions en ce moment pour aider les banques à se débarrasser massivement de leurs crédits impayés pour éviter d'ébranler le système bancaire. Et quand une banque se débarrasse d'un impayé, eh bien elle le revend à une société de recouvrement aux pratiques souvent délétères. Laetitia en sait quelque chose. Cette mère de 4 enfants s'est laissée envahir par la spirale des crédits renouvelables. C'est une grande enseigne du meuble qui a revendu sa dette. Sa vie est alors devenue un enfer.
Le crédit, il était à 2504 euros et il est monté à 5200 euros avec les frais qui se prennent en fait. Donc en fait, ils faisaient tout pour récupérer leur argent. Donc des lettres d'intimidation, comme quoi ils vont venir à mon domicile. Donc moi, je me suis dit, je vais perdre mon appart, je vais tout perdre. Mes enfants, ils vont être à la rue, je vais perdre mes enfants. Enfin, c'était du harcèlement, hein, concrètement. Ils ont réussi à retrouver ma belle-mère, mais elle n'était même pas au courant. Enfin, j'avais honte, quoi.
L'UFC Que Choisir dénonce également la revente de dettes qui ont pourtant été annulées par la commission de surendettement, ce qu'on appelle des crédits fantômes. L'association demande par ailleurs une meilleure information des emprunteurs quand leur crédit est revendu, afin de leur laisser une chance de trouver une alternative.
Carole Ferry.
Édouard Balladur, seul face aux questions de la Cour de justice de la République.
L'ex-premier ministre âgé de 91 ans s'expliquait hier sur le présumé financement occulte de sa campagne de 1995. Il a estimé avoir la conscience parfaitement tranquille, Chloé Triomphe.
Oui, c'est par ces mots qu'il a terminé son interrogatoire après plus d'une heure debout à la barre pour s'expliquer sur les quelques 10 millions de francs déposés en liquide sur le compte qui a servi à alimenter sa campagne. Dans un langage châtié avec un usage remarqué du subjonctif, l'ancien Premier ministre a balayé les accusations, expliquant qu'il n'était pas de son ressort de se pencher sur les contrats d'armement, encore moins sur les détails des rétrocommissions. Son rôle consistait à vérifier que les contrats étaient compatibles avec la politique étrangère de la France et d'ajouter: comme si ces accusations faisaient insulte à son intelligence, vous pensez que j'aurais accepté de me prêter à des opérations frauduleuses à hauteur de 600 millions pour que me fussent alloués seulement 10 millions? C'est vraiment me prêter un comportement d'une irrationalité totale. Le changement de ton est venu de son ancien trésorier de campagne qui, mal à l'aise, a convenu qu'il n'avait pas tout vu, laissant entendre que des fonds spéciaux avaient pu être versés à son insu pour financer la campagne. Soupçon démenti dans la foulée par le témoin suivant, laissant la cour sur sa faim, tandis que de nombreux témoins déjà condamnés dans le volet non ministériel du même dossier ont refusé de venir témoigner.
Chloé Triomphe.
C'est un événement sur le marché de l'art, un tableau du maître de la Renaissance Botticelli, vendu aujourd'hui chez Sotheby's à New York.
Le portrait d'un jeune homme tenant un médaillon, il date de 1480, c'est un des rares Botticelli encore possédé par un privé, un milliardaire américain. L'œuvre estimée à 80 millions de dollars pourrait devenir le tableau le plus cher du monde. Diane Chenouda.
C'est un pur joyau de la Renaissance, ce Botticelli, portrait d'un jeune homme blond, aux traits délicats, veste mauve, qui nous regarde devant une fenêtre et tient dans ses mains un petit tableau comme une icône. Olivier Lefeuvre dirige le département des tableaux anciens chez Sotheby's Paris.
Il est dans un état de conservation tout à fait extraordinaire, quasi parfait. Il est aussi exceptionnel parce qu'il représente un jeune homme florentin tout à fait typique, dont on ne connaît pas l'identité, ce qui garde d'ailleurs une part de mystère, mais il le présente avec cette originalité de ce jeune homme qui tient un autre tableau dans ses mains, ce qui est une originalité absolue qu'on ne retrouve pas ailleurs à l'époque, en tout cas évidemment que chez Botticelli.
Ce chef-d'œuvre de la Renaissance, estimé 80 millions de dollars, pourrait battre des records et pourquoi pas celui du Salvatore Mundi de Léonard de Vinci.
Quand le Salvatore Mundi est passé en vente, personne ne s'attendait à un résultat aussi spectaculaire. On ne pensait vraiment pas qu'il allait atteindre 450 millions de dollars, donc qui sait. C'est la magie des enchères, on peut avoir de très 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 bonnes surprises.
Verdict cet après-midi vers 16h30, heure de Paris.
Et puis un mot du mondial de hand, la France est en demi-finale après sa victoire contre la Hongrie. Rendez-vous demain face aux Suédois.
Allez, demi-finale de Coupe
mais
du Monde.
Oui,
quand même. On va être content, on va se réjouir. Il y a le Vendée Globe, il y a le handball. On va reparler avec Virginie Fulpin tout à l'heure. Merci, merci Hélène Zélani. C'était le journal de 7h. Très bon réveil à toutes et à tous.